introduire par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de lumière, l'Esprit de force, l'Esprit d'amour, l'Esprit de Dieu. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit du Père, sois la lumière. Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Confions-nous bien à celle qui était pleine de l'Esprit Saint, la Vierge Marie, patronne de notre paroisse. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Nazareth, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons donc ce soir notre deuxième conférence de carême. Le carême, c'est bien sûr une invitation, comme nous l'avons vu la semaine dernière, à changer notre cœur. Et si nous voulons vraiment changer notre cœur, eh bien il sera plus semblable au cœur du Christ. Et le cœur du Christ, c'est un cœur qui est donné, totalement donné. Ce soir, le thème que vous connaissez, c'est bien celui de donner son cœur. Donner son cœur. Et Vincent de Paul et Mère Teresa ont eu tous deux un cœur ô combien donné aux pauvres. Alors nous allons donc laisser le Père Jean-Louis Gallet nous faire vibrer à ce thème.
Voilà. Alors c'est un essai de micro-cravate en même temps. Donc j'espère que ça ira. Si ça fait l'Arsen, on réglera ça en régie. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Je vois qu'il y a quand même des gens courageux dans cette paroisse, c'est bien. Donc ce thème que vient de donner le Père Gilles, je vais essayer de l'illustrer. Et je vais d'abord vous parler un petit peu de la méthode, si on peut dire, et comment j'ai été amené à faire cette petite conférence. Bien sûr, s'il y a une phrase de l'Évangile qui peut résumer et qui est commune aux deux grands saints dont nous parlons ce soir, et qui retient notre attention, vous l'aurez compris, c'est dans saint Matthieu, au chapitre 25, c'est le jugement dernier, avec cette phrase bien célèbre, qui est d'ailleurs citée par les différents papes, lorsqu'il s'agit ou de saint Vincent de Paul, ou de Mère Teresa, de sainte Teresa. C'est tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Bien sûr, ce sont les deux saints de la charité. Et vous savez que quand il s'est agi de trouver un nom pour les conférences qui maintenant s'appellent Saint Vincent de Paul, qui au début s'appelait conférence de charité, conférence Saint-Sulpice, c'est Monsieur le Prévôt, notre fondateur, je dis monsieur parce qu'il n'était pas encore prêtre, qui a trouvé cela. Pour lui, c'était une évidence. Il a dit, mais il faut appeler ça et mettre sous le patronage de saint Vincent de Paul, puisque c'est le saint de la charité. Et donc, tout naturellement, tout le monde a été d'accord au sein de cette première conférence pour donner ce nom à ce que nous appelons maintenant communément les conférences saint Vincent de Paul. Pour saint Vincent de Paul, comme pour sainte Thérèse, en effet, Dieu se montre à eux sous les traits du pauvre de l'Évangile. Il n'y a pas d'être humain qui soit affamé, assoiffé, dans la nudité, ou bien malade ou en prison, qui ne suscite en eux une profonde compassion, et on peut même dire une empathie, au point qu'ils semblent eux-mêmes souffrir comme ceux qui sont l'objet de leurs soins. Vous vous rappelez sans doute la phrase de M. Vincent qui dit « J'ai peine de votre peine ». Bien, on trouve chez les deux saints cette même réaction, et le Père Morin a pu parler dans la précédente conférence d'un appel dans l'appel. Ils avaient déjà la vocation, mais tous deux ont reçu un autre appel à aller plus loin dans leur donation. Eh bien, c'est le moteur de leur activité charitable envers ces pauvres de toute catégorie. Alors, les sources qui nous l'apprennent sont assez variées et aussi différentes. Une vie de saint à l'époque de saint Vincent de Paul n'est pas exactement écrite comme le seront des vies de saints contemporaines. Les deux plus connues sont celles de Abeli et de Coste, qui comportent, au moins pour Coste, une quantité de volumes, sont très intéressantes. Mais ce sont des sources qui restent, bien que très documentées, absolument tributaires d'une habitude qu'on avait, ce qu'on appelle la positio. Donc la positio, c'est un très gros bouquin. Nous, on en a pour nos fondateurs, c'est-à-dire du Père Bellanger ou bien celle de Jean-Léon Le Prévost, qui sont énormes. Ça, c'est la taille. Mais il y a aussi le volume. Hein. Donc, on faisait une positio. Qu'est-ce que c'est qu'une positio ? Et on suivait ce schéma, justement, dans les vies de saints. Eh bien, c'est l'examen de toutes les vertus de celui qui, pour qui on a présenté le projet de béatification, de canonisation. Et ces vertus sont d'abord celles de les vertus théologales, c'est-à-dire la foi, l'espérance, la charité, et puis après, les autres vertus cardinales, puis morales. Donc la prudence, la justice, la religion, la force, la tempérance, l'humilité et la patience. Alors tout ça, ça nous amène finalement à un schéma qui est identique. Et quand on regarde toutes ces vies de saints d'une époque, c'est très documenté, mais en fait, ça ne sort jamais du cadre. Alors que pour Mère Teresa, bien là, c'est autre chose. Il y a eu une positio, c'est un passage absolument obligatoire lorsque on demande un procès à Rome de béatification, etc. Mais les sources, vous le comprendrez bien, parce qu'elles sont contemporaines, sont extrêmement différentes. Alors, il y a des sources variées aussi, des choses qui ont été écrites de son vivant. Par exemple, vous avez des biographies de Mère Teresa alors qu'elle est encore vivante. Voyez. Ensuite, il y a ses écrits personnels. Et puis, une quantité de documents qui sont des films d'acteurs ou des émissions de télévision, des reportages sur Mère Teresa et son action sur ses sœurs. Et puis, il y a enfin sa correspondance avec son père spirituel, le père Van Exem, qui nous apprend qu'elle a vécu, vous le savez déjà, une véritable nuit de la foi pendant 50 années. Alors, il ne faut pas oublier ça. Et puis, il y a aussi, et même, des Fioretti, les Fioretti de Mère Teresa, par le père Léo Masbourg, qui avait reçu tout de suite, au lendemain de son ordination, la mission de suivre la sainte dans ses voyages, dans ses rendez-vous. Il faisait le traducteur, enfin, il a fait beaucoup d'administration aussi pour elle. Et au premier jour où il a pris contact avec elle, ça a été un petit peu refroidissant pour lui, parce qu'elle lui dit « Bon père, j'espère que vous allez nous prêcher une retraite. » Oh ben oui, il était quand même très honoré qu'on lui demande ça à lui. Il dit « Mais quand voulez-vous ? » ?»« Eh bien demain. » Il dit « Mais c'est la première fois que je fais ça, mais de quoi est-ce que je vais parler ?»« Eh bien de Jésus, j'espère. » Voilà, ça c'était le premier contact avec le père Léo Masbourg et puis la sainte. Alors, il nous raconte des choses absolument extraordinaires dont je me servirai pour illustrer. Alors, j'ai choisi, avec plus ou moins de bonheur, sera à vous d'en juger, d'alterner les comparaisons entre les deux vies et d'essayer de mettre en parallèle les qualités identiques aux deux saints. C'est pour ça que vous avez des tas de papiers différents sur cette table. Alors, on va commencer à tout seigneur, tout honneur, et puis par apparition chronologique, par saint Vincent. Donc saint Vincent, son cœur donné, comme pour Mère Teresa, va s'exprimer évidemment par son action. Les qualités qui rendent son action féconde, nous les connaissons. C'est son esprit d'initiative, sa hardiesse, son génie de l'organisation. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les communications en particulier étaient assez différentes des nôtres. Et puis, bien sûr, il recourait d'abord à Dieu, sa prière. C'était l'école française de spiritualité, surtout favorisée par les écrits de M. Ollier. Et donc, on prenait Jésus-Christ pour modèle, sans cesse cette question qui revenait, que ferait Jésus à ma place? Et donc, dans son rapport avec les pauvres, on retrouve ça constamment. Il consultait, il expérimentait, il observait, et sa volonté était patiente, obstinée. Ça, Saint-Vincent de Paul, on peut le dire, on aura des exemples, quelqu'un d'obstiné, mais uniquement quand il a vu si son intuition était confirmée par Dieu. Alors, je fais une toute petite parenthèse, mais je pense que j'y reviendrai pas. Mais en faisant ce travail, j'ai découvert une chose que je savais déjà, mais ce qu'il serait intéressant de faire une conférence, bon, on ne peut pas mettre trois personnages, ce serait un peu long, mais sur le Père Leprévôt, notre fondateur. Parce que ces qualités qu'on a chez Saint Vincent de Paul et chez Mère Teresa, à chaque fois, j'ai trouvé qu'on les retrouvait dans les écrits et la vie de nos fondateurs qui a été écrite, bien sûr. On pourrait dire, comme ça a été fait par Léonard Murialdo, que c'était la plus fidèle image de Saint-Vincent de Paul. Et donc, au fur et à mesure que j'avançais, je me disais, c'est dommage de ne pas mettre un troisième personnage encore en parallèle en disant, tout ce qu'ont vécu Saint-Vincent de Paul et Mère Teresa, le Père Leprévôt, en nous fondant, l'a vécu. Voilà, donc ça c'est dit. Alors, à vous de faire le schéma quand je parlerai des qualités des deux saints. Alors, homme d'action. Bien sûr, il l'était. Et vous savez que la vertu qu'il faut demander quand on a à agir, c'est la vertu de prudence pour le gouvernement, lorsqu'on doit gouverner, et puis lorsqu'on doit décider d'action. Alors, Saint Vincent de Paul passait aux yeux de ses contemporains pour l'homme le plus prudent de son temps. C'est assez étonnant combien il y a de témoignages sur cette vertu de prudence en lui. Alors, une citation. On consultait le saint de partout. Il ne se tenait presque pas de réunion pour affaires de piété qu'il n'y fût convié. Vous savez qu'il était au conseil de conscience de la reine, là où on nommait les évêques, en particulier en France. Les hauts personnages eux-mêmes, nonces, évêques, seigneurs, magistrats, venaient lui soumettre leurs doutes, prêts à suivre la solution qui leur semblerait la meilleure. Alors, homme d'action. Eh bien, il avait les qualités que requiert la conception d'une œuvre et l'exécution. L'activité, l'esprit d'initiative, tout ça, on en a parlé. Si on veut juger de son activité, c'est très facile, parce qu'il suffit de jeter un coup d'œil rapide sur l'ensemble de ses œuvres. Alors, je ne vais pas vous en faire la liste, parce que là, ça serait vraiment lassant, tellement c'est énorme. Puis après, ce serait une série d'énumérations, les soins qu'il a portés à la Lorraine, aux pestiférés, à ceci, à cela, mais il a été un homme de toute charité. Alors, il s'est surtout spécialisé dans trois domaines, et ce sont ceux qui sont cités dans l'oraison de sa fête liturgique, c'est-à-dire l'assistance aux pauvres, la réforme du clergé, la sanctification du peuple. Vous voyez que c'est quelque chose d'assez ample et on peut dire d'assez universel. Alors, il ne perdait pas une minute de son temps. Il faut voir Saint-Vincent de Paul comme une sorte de bulldozer qui avançait, sans se ménager, et qui véritablement mettait la main à la pâte. On verra que c'est autre chose aussi qu'on retrouve chez Mère Teresa. Ce n'est pas un homme qui donnait des ordres du haut de la chair. Saint-Vincent de Paul, il a commencé, à partir, on pourrait dire, de sa conversion, à voir ce qu'il fallait faire, et puis à prendre le balai, etc. Et donc, c'était un laborieux. Correspondance, on écrivait, et heureusement, il n'y avait pas de téléphone, donc ça nous permet d'avoir des traces. Correspondance, visite, assemblée, conférence, rapport, préparation de règlement, et... Pendant longtemps, les travaux des missions remplissaient ses journées, qu'il allongeait même aux dépens de ses nuits. Donc un laborieux. Rien ne se perdait de son travail. Dès qu'il était entré dans une voie, eh bien, il continuait son chemin sans s'arrêter. sans regarder en arrière, sans revenir sur ses pas, comme l'Évangile le demande. Et on ne le voyait pas détruire le lendemain ce qu'il avait fait la veille pour construire autre chose. Pourquoi ? Parce que tout cela était pesé, mûri et minutieusement devant Dieu. L'affaire qui l'avait amené était, nous dit un de ses écrivains, un de ses biographes, examiné jusqu'à la moelle. C'est-à-dire que ce n'était pas quelqu'un qui faisait les choses un peu à la va-vite ou à la légère. Alors évidemment, ça a des avantages et des inconvénients. C'est quelqu'un qui ne précipitait rien. Alors pour nous, quand on dit ça comme ça, on dit c'est formidable, ça c'est une qualité. C'est une qualité. Mais alors pour ceux qui sont ses collaborateurs, qui n'ont pas forcément la même hauteur de vue, souvent on disait de saint Vincent de Paul, mais qu'est-ce qu'il attend pour agir ? Qu'est-ce qu'il attend ? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ça tout de suite, puisqu'on est tout le monde est d'accord là-dessus, pourquoi est-ce qu'on n'y va pas ? Eh bien, c'est que saint Vincent de Paul, ce sera la suite, allait au pas de Dieu. Il voulait savoir où il posait les pieds. Et il interrogeait Dieu. Il aurait cru douter de Dieu, par contre, une fois que la décision était prise, s'il, après avoir prié et suivi la providence pas à pas, il s'était arrêté. Vous voyez ? Il y avait une longue réflexion, il y avait une longue attente avant de se lancer. Mais une fois qu'il était sûr que c'était Dieu qui demandait cela, alors là, plus rien ne pouvait l'arrêter. On aura quelques exemples de ça. Alors, Mère Teresa, maintenant. C'est la deuxième pile de papier, vous voyez. Ma Mère Teresa était aussi, comme saint Vincent de Paul, une femme d'action. Il n'y a aucun doute. Vous savez qu'elle a commencé par être dans une congrégation d'enseignantes, les sœurs de Lorette, et puis elle les a quittées pour fonder un nouvel ordre. Mais là, elle a dû attendre. C'était une véritable mise à l'épreuve, moindre que ce qu'elle aura à subir aussi, incomparable avec sa nuit de la foi. Mais on l'a quand même bien fait patienter. Là aussi, pourquoi ? Les supérieurs avaient raison, les évêques aussi, parce qu'il fallait confirmer que ça ne venait pas de son envie de faire autre chose, de quitter, comme ça se fait parfois, sa congrégation pour aller voir ailleurs. Il n'était pas question de ça pour elle. Elle a vécu dans l'obéissance. Et donc, à chaque fois qu'on lui disait « il faut attendre, il faut que ça se vérifie, votre intuition », elle a fait ce qui lui était demandé dans une très très belle obéissance. Et lorsqu'elle s'attaque à ces changements de vie qui ont été difficiles, eh bien, elle fonde ces missionnaires de la charité que nous connaissons et elle s'attelle à obtenir le statut de congrégation pour être reconnue. Principalement consacrée aux pauvres, les religieuses de la congrégation sont d'abord présentes pour le soutien des malades et des enfants abandonnés. Et dès 1952, les sœurs vont ouvrir le mouroir de Caligat pour prendre en charge les mourants, les plus pauvres, les plus démunis, ceux qu'on allait chercher sur le trottoir à Calcutta. Pour M. Vincent, comme pour M. Vincent, si on veut juger de son activité, il suffit de jeter un coup d'œil rapide sur l'ensemble de ses œuvres. Tout d'abord, pour elle-même, elle a eu à cœur de se former en devenant compétente médicalement pour pouvoir donner des soins. Elle avait constaté qu'une des premières choses qu'il fallait faire, c'était de laver un malade, un pauvre, mais aussi de lui donner quelques soins médicaux. Donc elle fait un stage assez court chez des sœurs de la mission médicale à Patna, et puis elle retrouve ensuite Calcutta, où là elle va vivre chez les petites sœurs des pauvres. Et c'est très important ce passage, à mon avis, de sa vie, parce que elle va apprendre des petites sœurs des pauvres que, un petit peu comme la manne qui est donnée jour après jour, elle doit tout attendre de la Providence. Ne pas mettre de côté, ne pas entasser. Et ça va être une épreuve pour beaucoup de gens riches qui vont l'aborder, parce qu'ils vont lui proposer un hôtel particulier, un appartement, une maison, et elle dira « Non, je n'en ai pas besoin, non, non ». Vous voyez, elle ne voulait pas se faire de trésors sur la terre. Alors, pour la première fois, le 21 décembre, elle est allée dans les bidonvilles. Elle a commencé par visiter quelques familles, laver des plaies de plusieurs enfants, prendre soin d'un vieil homme malade allongé dans la rue et d'une femme tuberculeuse qui mourait de faim. Chaque journée, bien sûr, elle a commencé en union avec Jésus, en communion dans l'Eucharistie. Puis après, elle sortait, le chapelet à la main, pour le trouver et le servir dans les rejetés, les mal-aimés, les négligés. Alors après quelques mois, bien, il y a plusieurs élèves qu'elle avait eus qui se sont joints à elle pour l'aider, persuadée que là, il y avait vraiment une très belle mission. Et donc, en 1950, cette nouvelle congrégation a été reconnue. Alors, elle a été encouragée. Hein. Elle a été encouragée par les autorités, notamment par le pape Paul VI. D'abord, elle a fondé d'autres maisons en Inde. Et puis après, elle a été appelée à aller au Venezuela. Puis après, à Rome, en Tanzanie. Enfin, finalement, sur tous les continents. Puisque elle a ouvert même des maisons dans les pays communistes. Il y a plusieurs anecdotes là-dessus, on verra plus tard. Y compris donc l'Union soviétique, l'Albanie et Cuba. Ce qui était très courageux. Alors ensuite, dans ce genre d'œuvre qu'elle a fondée, il y a toute une collection, les frères missionnaires de la charité, etc. Donc je vais simplement faire une petite liste des sœurs actives d'abord, hein, celles qu'on connaît avec le sari, qui est le vêtement des pauvres, qu'elle s'est imposée elle-même comme un signe de sa nouvelle congrégation, avec une petite croix pendue sur le cœur. Donc ces sœurs actives sont 5000 dans le monde, hein, réparties en 130 maisons. Ensuite, rapidement, les sœurs contemplatives, les frères actifs, les frères contemplatifs, les pères missionnaires, les missionnaires laïcs, les volontaires et les assistants malades et des souffrants. Et là, elle a ouvert pour commencer 6 centres. Kaligat, Premdan, Sishubhavan, Ovra Sishubhavan, c'est le même centre mais près de la gare. Dayadan et Shantidan. Ça, c'est Calcutta et sa région. Alors, l'activité n'est plus approuvée. Quand on a compris cela, tout ce qu'elle a fait comme bien, comment elle s'y est prise, on va avancer un petit peu dans cette voie. On voit très bien le parallèle avec Saint Vincent de Paul. Une fécondité réelle, parce que son cœur ne peut pas faire autrement, en voyant les pauvres, que de compatir et se mettre à leur service. Alors pour Saint Vincent de Paul, j'ai dit tout à l'heure qu'une de ses caractéristiques, et on la retrouve donc chez le Père le Prévôt, c'est d'aller au pas de Dieu, hein, comme c'est important pour ces deux saints. On pourrait croire à certains moments que Saint Vincent de Paul n'avait pas d'initiative. Justement, je vous disais, il avait l'air un peu lent pour son entourage, lui savait ce qu'il faisait. Pas d'initiative, c'est-à-dire que c'était toujours une influence extérieure qui le forçait, en somme, à fonder. Par exemple, Madame de Gondi, hein, pour la congrégation de la mission. Madame Gousseau, avec l'archevêque de Paris, pour les dames de la charité de l'Hôtel Dieu. Ou bien l'évêque de Beauvais, pour les retraites des ordinants. Bien sûr, vous doutez qu'il n'y a rien qui permette de conclure à l'absence d'initiative, hein, chez Saint Vincent de Paul. Mais il attendait, non pas par timidité, mais encore par principe, comme étant la voie que Dieu voulait lui donner par d'autres, plutôt que de proposer soi-même. Et donc ces interventions, de la plupart du temps, de hauts personnages étaient nécessaires pour le mettre en route, parce qu'il voyait comme une confirmation de la volonté de Dieu. Il aurait pu, avec les talents quand même qu'il avait, et son tempérament aussi, prendre les devants, hein, suggérer ses propres idées aux personnes haut placées. Mais comme il était en cause à chaque fois, il préférait recevoir sa mission que cela donnait, ce qui est d'ailleurs tout à fait ecclésial, c'est un très grand sens de l'Église, on ne se donne pas sa mission à soi-même et on la reçoit. Bien, c'est exactement ce que Saint Vincent de Paul, en voyant dans ceux qui lui étaient envoyés ou qui suggéraient qu'il agisse, les envoyés de Dieu, les représentants de Dieu sur terre. Et donc il était plus sûr de côtoyer la Providence que de faire sa propre volonté. Alors, Madame de Gondi l'a beaucoup aidé, effectivement, pour fonder la confrérie de l'Hôtel Dieu, hein, et puis d'autres charités. Si l'évêque de Beauvais ne lui avait rien confié, il ne serait pas parti dans la direction des exercices pour les futurs prêtres. Alors, pour ce qui est de Mère Teresa, elle aussi allait au pas de Dieu. Hein. Elle prenait ses conseils auprès de Dieu. Une femme de silence et d'oraison. Voilà ce qui a été vraiment le moteur de son action charitable. C'est ce qui lui permet de tout oser. C'est dans son amour de l'Eucharistie contemplée et adorée qu'elle puisait sa force d'agir et d'oser. On peut dire que l'Évangile était vraiment passé dans sa vie. Et comme M. Vincent, l'agir de Jésus était sa référence. Pourtant, on ne peut pas dire que Mère Teresa est de l'école française de spiritualité. y a un décalage, mais d'abord cette école quand même a pénétré largement l'Église hein, universelle. Eh bien, c'était sa référence. Elle se demandait, elle aussi, que ferait Jésus à ma place. Et puis aussi, la place de la Vierge Marie dans sa vie. Par rapport, par exemple, à l'usage qu'elle faisait, on reviendra là-dessus, mais l'usage qu'elle faisait de la médaille miraculeuse de la rue du Bac. Elle avait toujours un sac sur elle. Alors, il y a plusieurs petites anecdotes, mais qui viendront pour plus tard. Ce qu'on voit, c'est que quand elle avait décidé quelque chose, c'est toujours, comme pour M. Vincent, parce qu'elle y avait vu la volonté de Dieu. Elle aussi, elle ne se lançait pas tête baissée et n'importe comment dans ce qu'il y avait à faire. Elle voyait l'ampleur du travail, mais de nouveau, il y avait ce retrait par rapport à sa volonté propre qui lui faisait dire « Est-ce que ce que moi je désire, c'est la volonté de Dieu ?» Mais après, exactement comme pour M. Vincent, eh bien, rien ne pouvait arrêter cette petite femme, quand elle avait décidé quelque chose. Et on lui trouve la même hardiesse que chez M. Vincent. Alors moi, j'ai vu une seule fois Mère Teresa, en vrai. C'était un colloque pour les familles, enfin, c'était une année de la famille, je crois que c'était en 90. Mais j'étais avec une délégation française, où il y avait Mme Boutin, Mme de Malherbe, Jean-Frédéric Poisson, et il y avait un moment où on intervenait sur l'estrade. Évidemment, c'était Mme Boutin qui parlait. Enfin, nous, on faisait les pots de fleurs, on décorait l'estrade, on avait droit à notre chaise. Bon. Et puis alors, la chance qu'on a eue, c'est tout de suite après, il y a eu une autre délégation qui est arrivée, on avait le droit d'être au premier rang. Bon, c'est toujours intéressant, dans une grande aula de Saint-Jean-de-Latran, un grand amphithéâtre, on se retrouve pendant un quart d'heure ou 20 minutes au premier rang. Et justement, il y a eu une interruption de la séance, que Mère Teresa arrivait. Alors, tous les petits prélats ou gros prélats se précipitait sur Mère Teresa, évidemment. Elle n'y a pas fait trop attention. Elle est venue vers nous. Et puis elle nous a salués très très simplement. Et puis elle est montée à la tribune. Bien sûr, on l'attendait. Il n'y avait pas de temps à perdre pour elle non plus quand elle allait quelque part. Donc on a repris la séance. Elle est montée à la tribune. C'était une tribune qui était à peu près comme ça. Donc on a rajouté quelque chose pour la surélever. Sinon, on ne l'aurait pas vue. Et puis là, elle a fouillé dans son sac. Et puis elle a tripatouillé, il y avait un vieux mouchoir, il y avait son bréviaire, enfin, il y a un tas de choses qu'elle a sorties. Puis à la fin, elle avait trouvé ce qu'elle voulait, alors elle met sur le pupitre, petite vierge comme ça, pas plus grande, et là, grand silence. Elle a commencé par prier toute seule en silence. Puis après, elle nous a fait prier, et elle a commencé à dire ce qu'elle avait à dire. Vous voyez cette référence, toujours Dieu d'abord. Ce n'est pas ce que moi je vais dire. Sans doute, je pense qu'elle devait demander à Dieu la force, bien sûr, mais aussi de dire ce qu'il fallait dire selon les assemblées qu'elle avait. Donc voilà, moi ça m'a beaucoup marqué. Et j'ai même réussi à en tirer 2-3 photos. Donc les saints sont des gens innovateurs, audacieux, mais qui ne font ça que parce qu'ils ont vérifié que c'est Dieu qui leur demandait. Alors, il y a une certaine audace, on l'a dit, mais aussi une obstination. Chez les saints, à partir du moment où ils sont sûrs que ce n'est pas eux, mais Dieu, il y a une obstination. Vous ne pouvez pas les faire décrocher de ce qu'ils ont vu comme étant ce que Dieu demandait. Donc, les filles de la charité, c'était audacieux. Envoyer sans voile au milieu des malades et même des soldats. Une forme nouvelle de vie religieuse, fondée à partir d'une intuition de saint François de Sales, mais qui n'avait pas marché. Hardiesse aussi dans la création des prêtres de la mission, qui ne sont pas des religieux et qui pourtant prononcent les vœux de religion. Hardiesse dans les entreprises même de charité. Les enfants trouvés, ça lui a donné beaucoup de mal. Les enfants trouvés, les provinces ruinées, c'est là où il pourrait y avoir une énumération de toutes les provinces françaises qu'il a aidées. L'hôpital général, que des œuvres immenses et incalculables. Il était quêteur pour cela. On verra que les saints ont aussi un côté très pratique. On viendra à ça plus tard. Lui, un simple prêtre, recherche des moyens de délivrer les esclaves de la côte africaine, de nettoyer la Méditerranée des pirates, et même de créer une expédition maritime à cause du bombardement d'Alger, et de multiplier les démarches pour avoir de l'argent et un chef à la tête des troupes. Tout ça, M. Vincent le faisait. Et la condition de sa réussite, une fois entrevue selon le vœu de Dieu, c'est l'obstination. Il faut savoir tenir bon. Les obstacles ne l'ébranlaient pas. Si jamais les ressources venaient à lui manquer, si les collaborateurs, arrêtaient, abandonnaient, se retiraient, ou s'ils étaient enlevés par la mort, eh bien, il ne diminuait pas sa confiance. Au contraire, il redoublait d'activité, frappait à la porte des riches, ça c'est une caractéristique de M. Vincent, alors que pour Mère Teresa, c'est le contraire, c'est les riches qui viennent à elle. Et il avait toujours la joie de voir une situation très compromise qui se rétablissait. Alors les deux œuvres qui lui donnèrent le plus de mal, sans doute, sont Les Enfants Trouvés, parce que là, il s'adressait aux dames de la cour, et on le verra dans le film Monsieur Vincent la semaine prochaine, dans un premier temps, elle ne voulait pas en entendre parler. Mettons-nous à leur place aussi. Ces enfants, comme elle disait, c'était les enfants du péché. Ils avaient été abandonnés dans la rue, on ne savait pas d'où ils venaient. Enfin bon, c'était pour elle un pas gigantesque à faire. Il leur a fait faire. Et ce que vous voyez dans le film Monsieur Vincent, j'en ai parlé quelques fois avec le père provincial, ça nous intéressait beaucoup de savoir si le scénario avait tenu compte. Mais ce n'est pas du tout des inventions. Quand on voit les dames de la cour rebutées par ce travail, qui ne voulaient pas salir leurs mains de mère en prenant ces enfants du péché, ce sont des rédactions qui ont été faites de son vivant, un petit peu comme des reportages. On a des minutes de ces moments-là, et donc c'est bien la réaction réelle de ces femmes qui, après, en sont venues à vendre tout ce qu'elles avaient, leurs bijoux et tout, pour sauver ces enfants. Mais ce n'est pas du cinéma, même si c'est représenté au cinéma, mais c'est vraiment la réaction de ces personnes à qui on s'adressait à l'époque. Et puis il y a eu aussi la mission de Madagascar. Alors ça, c'était vraiment un calvaire pour Saint-Vincent de Paul, parce qu'il y avait tellement de dangers à cause du long voyage, d'abord sur mer, et puis le climat de l'île. Alors voici ce qu'il disait. Les grands desseins sont toujours traversés par diverses rencontres et difficultés. La chair et le sang diront qu'il faut abandonner la mission. Gardons-nous bien de les écouter. Dieu ne change jamais dans ce qu'il a une fois résolu, quelque chose de contraire qu'il nous semble qu'il arrive. Voilà la ligne de conduite et l'obstination, alors là pour le coup on peut dire la sainte obstination de M. Vincent, puisqu'il ne décroche pas de quelque chose qui est voulu par Dieu. Alors pour Mère Teresa, on retrouve cette même audace et cette même obstination. Un exemple qui a été filmé, donc là c'est très intéressant, c'est vraiment un reportage, c'est lorsqu'il y a eu des bombardements, enfin un des bombardements à Beyrouth, où elle s'était rendue sur place parce qu'elle voulait sauver les enfants d'un orphelinat. Donc le reportage montre très bien qu'elle est obstinée, parce qu'elle sait que Dieu veut qu'on aille chercher ses enfants. Bon. Alors, il y avait pourtant le nonce, l'évêque du lieu, le général qui commandait les armées, et puis une sœur avec elle, avait toujours une sœur avec elle. Et tout le monde lui disait, mais non, ma mère, on ne peut pas aller de l'autre côté. Vous voyez, ici, c'est la limite, là-bas, ça bombarde. Et elle, justement, c'est parce que ça bombarde qu'il faut y aller. Alors, le nonce lui dit, mais vous savez, moi, je me permets d'insister, enfin, je vous recommande, c'est quand même pas très prudent et tout. Mais peut-être que ça n'est pas très prudent, mais il faut aller de l'autre côté. Bon, le général, lui, en culotte courte, balayé, il avait beau dire tout ce qu'il voulait, donner des précisions techniques, c'était impossible et tout, elle a dit, mais justement, c'est parce que c'est difficile qu'il faut y aller. Bon, finalement, elle a obtenu une trêve. Vous voyez, son obstination, qui n'était pas la sienne, c'est Dieu qui voulait sauver ses enfants, a obtenu une trêve, rien que moins que ça, et ça lui a permis de sauver 69 enfants. Le temps de la trêve, tous les missionnaires qui étaient avec elle sont passés de l'autre côté, on a ramené les enfants, et après la guerre a repris. Les bombardements ont repris. Voilà, obstination de Mère Teresa est prise sur le vif, parce que ça a été filmé, ça, vous voyez. Alors, il y aurait d'autres exemples à donner, mais c'est important de voir que chez les saints, d'abord ils ne pensent pas à eux, ils ne le font pas pour eux. Ils sont vraiment des cœurs donnés à leur mission qu'ils ont reçue de Dieu. L'esprit d'organisation. Alors, chez M. Vincent, c'est absolument effrayant. Le deuxième personnage de France, qui est quand même pas si loin que ça, c'est Napoléon. Napoléon, depuis la campagne de Russie, gérait la vente du prieuré de Solesmes, voilà, dans la Sarthe. Et il a obtenu que ça ne soit pas démoli. mais il était quand même en Russie. Alors, M. Vincent lui faisait pareil, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire d'où il était en France, il dirigeait des missions qui étaient à l'autre bout du monde. Donc, un génie de l'organisation, grâce à son bon sens, il pense à tout, il prévoit tout. On voit que pour Mère Teresa, c'est exactement pareil. Bon, ses règlements pour les communautés sont extrêmement précis. Rien n'est laissé au hasard. Détaillé, pratique. Pour alimenter la caisse des confréries de la charité, il imagine des procédés pleins d'ingéniosité pour son époque. Les confréries des campagnes, c'est tout simple, ils sont à la campagne, mais qu'est-ce qu'ils auront ? Des vaches et des brebis. Dans les villes, des manufactures. Des troncs seront placés dans les églises et les hôtelleries. Au temps des misères de la Fronde, il y aura des feuilles volantes, on appelait ça comment maintenant ? Des flyers, mais oui. C'est M. Vincent qui a inventé les flyers parce qu'il faisait des petits tracts et on allait mettre ces feuilles dans la maison des riches pour leur dire que les pauvres avaient besoin. Vous voyez ? Et donc il y avait des frères, des personnes qui les aidaient, qui allaient porter dans les hôtels particuliers, chez les riches, des petits flyers pour dire voilà, on attire votre attention sur le fait qu'on a besoin d'argent, on a besoin de vous pour sauver les pauvres. Donc un esprit d'organisation qu'on retrouve chez la sainte de Calcutta, sainte Teresa, qui, elle aussi, ne perd pas son temps. On a parlé de règlement chez M. Vincent, voici un règlement pour Mère Teresa. Une journée ordinaire des sœurs peut être résumée ainsi. 4h30, réveil. 5h, prière du matin. 6h, lecture spirituelle et méditation. 7h, Eucharistie. 7h30, petit déjeuner. 8h, travail domestique. 9h, apostolat. 12h, prière de midi. 12h30, repas. 13h, office de la Vierge. 13h30, repos. 14h, thé. 14h15, apostolat. Jusqu'à 17h15. 17h15, adoration. 19h, temps pour travaux personnels, lavage. Alors, on lave son sari tous les jours pour qu'il soit propre. Et puis, on remet la maison un petit peu en ordre. 19h30 repas, 20h récréation, 21h prière du soir, 21h15 prière de nuit. C'est-à-dire qu'après, chacun prend le temps qu'il veut pour prier et continuer justement bien à féconder l'apostolat du lendemain et puis pour rendre grâce pour la journée. Alors, côté très pratique et esprit d'organisation chez Mère Teresa, là aussi, ça a été filmé, c'est quand elle arrive à New York. À New York, on lui avait donné ce dont elle avait besoin pour son apostolat, c'est-à-dire un immense appartement. Et donc, on pouvait faire un coin prière, recevoir les pauvres, que les sœurs puissent dormir aussi quelque part, c'est-à-dire par terre. Et puis, voilà, tout ça, c'était en train de s'organiser, sauf que l'appartement lui était livré avec de la moquette. Et alors là, ça, c'est terrible. C'est terrible, cette scène. Parce que Mère Thérèse arrive et dit « Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là » Les ouvriers lui disent, tout en plus qu'elle parlait anglais, « C'est de la moquette. » Elle avait évidemment bien vu ce que c'était. Bon, elle dit « Vous m'enlevez tout ça. » Allez, hop, vous m'enlevez tout ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Par la fenêtre, la moquette. Alors, on voit les ouvriers qui sont là, ils roulent la moquette. Il n'est pas question d'avoir ça dans une maison des sœurs. Donc, on enlève toute la moquette et on flanque tout par la fenêtre. Voyez. Ça, c'est Mère Teresa tout craché. Quand elle s'adresse à ses novices dans la maison de Rome, c'est pareil, elle met les points sur les i, qu'on en rougit de l'entendre. On se dit, mais quel est le maître des novices aujourd'hui qui prend ses novices, leur dit, bon voilà, maintenant je vais vous expliquer ce qui va se passer pendant toute votre vie. Et alors là, elle commence à détailler. Si vous avez besoin de votre confort, partez. On ne peut pas dire qu'elle fait de la pub. Elle n'attire pas. Non, non. Elle veut être sûre que ceux qui viennent ont le même but qu'elle. Si vous êtes rebuté par certains pauvres, parce qu'ils sont sales, parce que vous avez du mal à les regarder, tout, partez. Et comme ça, il y a une énumération impressionnante. Si vous vous imaginez que vous allez pouvoir vivre douillettement, prendre des vacances, voir votre famille, partez. On ne peut pas dire qu'elle est encourageante. Mais alors ceux qui restent, ça veut dire qu'ils ont compris ce que Mère Teresa attendait, si vous voulez. Alors il y a la méthode pour établir les œuvres chez ces deux saints. La méthode des œuvres, vous allez voir que ce n'est pas très différent finalement. D'abord, il faut dire qu'après des siècles, toutes les œuvres que M. Vincent a fondées existent d'une façon ou d'une autre, j'entends. Dans une forme modifiée, elles existent encore. Donc cette vitalité prouve la solidité de leur structure et aussi et surtout l'excellence de la méthode qu'avait utilisée M. Vincent pour les établir, puisque ça reposait sur Dieu. Donc il avait fait sienne cette pensée de saint Ignace. Je trouve bonne la maxime de se servir de tous les moyens licites et possibles pour la gloire de Dieu, comme si Dieu ne nous devait point aider, pourvu qu'on attende tout de sa divine providence, comme si nous n'avions point de moyens humains. Vous voyez, on retrouve cette note chez M. Vincent, confiance en la divine providence. Quand on attend de Dieu le succès d'une œuvre, on la lui offre avant de commencer. On le prie de la bénir, c'est donc la prière tout d'abord. La méthode pour établir des œuvres pour M. Vincent, c'est la prière. La seconde pratique, on l'a déjà évoqué, c'était un regard vers Jésus-Christ. Et se demander toujours comment le Christ s'était comporté devant telle ou telle circonstance. Quels sont ceux des enseignements qu'on trouve dans l'Évangile qui s'y rapportent? Donc il y a un va-et-vient constant chez M. Vincent, et on le retrouvera chez Mère Teresa, de l'Évangile à la vie. De l'Évangile à la vie. C'est intéressant, c'est pas le lieu ni le sujet, mais de voir comme les saints vivent dans le monde du réel, et non pas dans le monde des idées, qui souvent est le monde de l'orgueil, où on voudrait imposer ses idées au réel. Là, les idées viennent du réel. Donc les saints ont la tête au ciel, comme on peut le dire, avec humour, et les pieds sur terre, mais c'est exactement ça. Ils vivent dans le réel, et ils en tirent des conclusions. Leurs idées viennent après le réel. Donc ce ne sont pas des idéalistes, ce sont des réalistes. Donc saint Vincent interrogeait beaucoup aussi avant d'agir. Mais la méthode d'établir ses œuvres, c'était ça. Il prenait conseil. Donc il réunissait chaque semaine ses assistants. Il leur adjoignait des prêtres anciens. Il voyait même les frères coadjuteurs quand c'était des affaires en particulier qui regardaient leurs offices. Les questions les plus importantes se débattaient, tenez-vous bien, en Sorbonne, chez les jésuites ou chez des membres éminents du clergé français. Et une fois sa décision prise, il commençait toujours petitement. Règle chez saint Vincent, règle chez Mère Teresa. Il commence tout doucement, pour laisser les choses aller naturellement. Et après, il donnait l'ampleur nécessaire à l'œuvre qu'il avait créée. Donc on se tromperait si on voyait dans ses modestes débuts des œuvres un défaut d'imagination. Il ne faut pas croire ça. Il démarrait avec deux, trois aides. Il s'occupait de quelques malades au début. Et après, ça prenait évidemment l'ampleur qu'on connaît. L'expérience, donc le réel, était pour lui source d'information. Il savait observer. C'était un très bon élève pour ça. Il avait le don d'observation. Et les résultats lui montraient ensuite quelle orientation pratique donner à son œuvre. Les séminaires sont le résultat d'une évolution qui commence avec les retraites des futurs prêtres. Les filles de la charité naissent des confréries de la charité qui sont leurs aînées de 16 ans. Vous voyez, avant de fonder une congrégation féminine, il attend de voir. Les dames de la charité se fixent tout d'abord un objectif très très modeste, préparer les malades de l'hôtel Dieu à la mort. C'est de l'aumônerie, c'était les premières aumônières, ou je ne sais pas, aumôniers femmes. Leur champ d'action s'est ensuite étendu à l'assistance des enfants trouvés de Paris, au secours aux provinces ruinées par les guerres, etc., les maladies, la propagation de la foi dans les régions hérétiques, et l'œuvre des enfants trouvés, elle-même n'a débuté que par l'adoption de 2 ou 3 enfants, pas plus. Leur nombre ne passa guère à la douzaine que 2 ans après. Mais toujours cette idée que dire oh, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait plus, ça aurait pu être plus rapide. Non, prenons le temps. Pour les règlements, dont on a dit qu'ils étaient très minutieux, c'est la même prudence. Règlement provisoire d'abord, règlement définitif, on trouve ça dans notre congrégation. Et au fur et à mesure, c'est l'expérience qui vient réduire la part de l'imprévu et qui vient consolider. Et les prêtres de la mission ont eu leur règlement seulement après 33 ans. Vous voyez ? Parce que leur mission était tellement variée et complexe qu'il n'a pas voulu faire quelque chose qui tombe à côté. Voilà, l'expérience a toujours été cette grande école pour Saint-Vincent. Hein. Il essayait toujours d'apprendre la science de l'action. D'autres saints ont créé des sociétés religieuses et charitables. Hein. Ils ont eu un tempérament de réformateur, mais aucun ne s'est montré, de dire de ses biographes, à sa hauteur comme homme d'action. Hein. Volonté patiente, c'est ce qu'on vient de voir, petit commencement. Il vous laisse donner le temps de bien réfléchir et, encore une fois, de fonder sur Dieu. Alors, la comparaison qu'il prenait, c'était concernant la nature. Je trouve qu'elle est très belle, cette comparaison. La nature fait prendre des racines profondes aux arbres avant que de leur faire porter du fruit. Et cela, même, elle le fait peu à peu. Voilà la raison, vous voyez, de son agir est là. Notre Seigneur en a usé de la sorte en sa mission, ayant mené une vie cachée un fort longtemps, avant que de se manifester et de s'employer aux œuvres de notre rédemption. On retrouve cette ligne de conduite. Après, pour la persévérance de l'œuvre qu'il a créée, bien sûr, eh bien, il continue à soutenir hein, et à porter une attention pour voir si les choses ne dévient pas. Il ne détache pas ses regards du but. Voilà ce qui compte pour lui. Alors, la méthode de Mère Teresa pour établir les œuvres, là, ça va peut-être vous surprendre. Hein. Elle aussi se sert de tous les moyens, mais elle privilégie de loin les moyens surnaturels. On l'a dit déjà, c'est la prière qui est le moteur hein, pour elle. Vie d'oraison silencieuse, personnelle. Pas seulement dans les temps prévus par la règle. Hein. Quand on lit qu'il y a ensuite la prière après le dernier office de 21h, ça veut dire que Mère Teresa était là aussi. Quand les sœurs se couchaient, elles priaient. Et dans les cas de détresse, elle avait inventé la quick novena. Alors ça, je vous le recommande. La quick novena, c'est réciter 9 fois de suite la prière de Saint Bernard, le souvenez-vous. Donc ça, c'est quand il y avait la panique, une urgence, quelque chose, une détresse. C'était la quick novena et elle dit que ça marchait toujours. Elle obtenait toujours ce qu'elle demandait à Dieu avec la quick novena. Alors, là aussi, il y a des choses intéressantes, puisque ça a été soit filmé, là, cette histoire que je vais vous raconter n'a pas été filmée, mais elle montre la confiance qu'elle avait hein, et quelle était sa méthode au fond. Il s'agit de sa rencontre avec le sandiniste, donc marxiste, dictateur, Daniel Ortega. Hein. Bon, Daniel Ortega accepte de la recevoir, mais il est entouré d'hommes armés, et c'est extrêmement complexe de l'approcher. On doit se tenir en bas de l'estrade où lui se trouve, et puis commencer par l'écouter, et puis après, c'est rare qu'il donne la parole. Donc, pour Mère Teresa qui venait demander de pouvoir s'implanter chez lui, c'était une situation assez complexe. Il y avait le père Léo Masbourg et une autre religieuse qui, éventuellement, pouvait faire la traduction. Bon. Et alors, il commence par vociférer sur ses ennemis qui sont diaboliques, qui sont des gens absolument exterminés. Et puis, tout en parlant, il s'emballe. Et puis, voilà, il est hors de lui. Et puis, personne n'ose l'interrompre, évidemment. Alors, Mère Teresa profite d'un petit moment de silence. Elle dit, eh oui, les œuvres d'amour sont des œuvres de paix. Alors, la personne de l'entourage du dictateur n'ose traduire. Parce qu'il dit, si on traduit ça, ça va être l'explosion. Bon. Et puis finalement, la petite sœur qui était avec se résigne bien, tout le monde lui fait signe, allez, ça c'est vous qui allez le traduire. Bon, donc elle traduit au dictateur. Du coup, il en est bouche bée. Et là, Mère Teresa fait quelque chose qui est absolument interdit. Elle s'avance. Elle quitte l'endroit où elle était. Elle s'avance, toute petite qu'elle était, au pied de l'estrade. Et puis elle parle, ce qui était aussi interdit. Elle lui dit, est-ce que vous avez des enfants? Alors, il ne sait plus quoi dire. Ben oui, combien? 7. Alors là, elle fait le coup du petit sac, elle prend dans son petit sac 7 médailles miraculeuses, et elle les embrasse, et elle les pose une à une en haut de l'estrade sur le bureau où était le dictateur. Et puis après, elle en rajoute une, elle dit, et ça c'est pour votre femme, et ça c'est pour vous, vous en avez bien besoin. Voilà tout ce qui a été dit. Alors, Il était bouche bée et lui dit, mais alors qu'est-ce que vous voulez ? Eh bien voilà, je voudrais venir avec mes sœurs pour m'occuper des pauvres, etc. Et tout. Le lendemain, elle rencontrait le ministre qui lui a permis d'ouvrir une maison. Et au départ, il n'en était pas question, je peux vous assurer, hein, pas question, chez un marxiste. C'est peut-être un des premiers endroits d'ailleurs où il s'est vraiment implanté. Bon, mais voilà, ça c'est vraiment du Mère Teresa. Quand elle passait le contrôle des douanes, alors ça c'est encore plus formidable. On avait examiné la valise de l'évêque qui était avec elle, et puis on commençait à regarder de travers la croix pectorale, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, et puis le paquet de médailles aussi, il y avait des centaines de médailles, et puis un petit peu de monnaie du Vatican. Alors comme elle ne savait pas comment faire, elle dit à l'évêque de donner une médaille au douanier. Alors, il prend une médaille et lui dit, est-ce que ça vous ferait plaisir d'avoir cette médaille ? Et le douanier regarde autour de lui, personne ne l'avait vu, il prend la médaille et tout le monde passe. Voilà, ça c'était la méthode Mère Teresa, vous voyez. C'est ça sa méthode pour établir les œuvres. En 84, elle a fait planter des médailles par le père Léo Masbourg dans l'église de l'Annonciation. Elle a profité d'une visite guidée. Elle s'était dit, il faut qu'on inonde la Russie de médailles. Donc elle dit au père Masbourg, vous allez en planter partout où vous allez aller. Donc ils se rendent dans cette église, avec l'évêque en question, là, qui avait du mal avec sa croix pectorale, et ils célèbrent la messe, donc le 25, le jour de l'Annonciation, dans l'église de l'Annonciation, pendant une visite guidée. Simplement, ils s'étaient cachés derrière la Pravda. Il paraît que c'était un journal très grand format, donc ils se sont cachés derrière le journal, et l'évêque a dit la messe, en pleine église, pendant le régime communiste. Bon. Et pendant ce temps-là, le père Léo Masbourg, après la messe, il est allé mettre derrière les sarcophages des tsars des petites médailles. À temps en temps, il y avait un bruit, parce que la médaille tombait assez profondément, et là, il y avait des gardes qui rappliquaient tout de suite, mais lui, il faisait le touriste très intéressé par ce qui se passait en haut, et puis il allait un peu plus loin, et puis il mettait une autre médaille. Voilà. La méthode Mère Teresa, c'est ça. En 85, c'était le régime Gorbatchev. Alors là, ça s'est un petit peu détendu, et ça a quand même été long. Ils ont eu beaucoup, beaucoup de difficultés pour la première communauté. Hein, plus d'un an pour le premier visa. Bon, mais ça, c'était elle. Elle avait dit, ça fait rien. On va attendre, mais on va fonder en URSS. Bon. Et quand elle accueille le père Léo à l'aéroport, qui vient avec les papiers nécessaires et tout ça, elle lui dit, vous savez, j'ai demandé une faveur à la Sainte Vierge. J'ai demandé qu'il y ait autant de communautés en Russie que de mystères du rosaire. Ouais, c'est-à-dire 15. À l'époque, il n'y avait que 15 mystères. Et là, le père Masbourg dit, je me suis dit, la mère, elle commence vraiment à vieillir, là. Il y a quelque chose. Bon. Sauf que, en 97, 15 jours avant sa mort, il y avait 20 communautés là-bas. Voyez. Donc, elle demandait. Elle était familière de demander au Christ, de demander à sa mère, voilà. Et elle s'était dit, allez, ça, le Seigneur nous l'accordera. Donc c'est ça sa méthode. Hein. Qu'est-ce qui a pu permettre à Mère Teresa d'être complètement vaccinée contre toutes les tentations d'orgueil, de fierté, de vanité, malgré tous les éloges, tous les hommages, les décorations, les distinctions, ses rencontres avec les hommes d'État importants ? Il faut penser, quand elle a été reçue à l'ONU, on a dit, de Pérez de Cuellar, dans son discours, nous avons reçu ici l'homme le plus important du monde, il voulait parler du pape, et aujourd'hui nous recevons la femme la plus importante au monde. Hein, on a dit ça. Bon, donc elle l'a entendu. Eh bien, pour elle, elle restait simplement le crayon dans la main de Dieu. Hein, c'est son expression. C'est-à-dire une humble servante. Et elle disait toujours, c'est son œuvre. Et quand on lui disait, mais ce que vous avez fait, c'est extraordinaire et tout, c'est son œuvre. Et grâce à son extraordinaire humilité, elle a pu réaliser ça toute sa vie. Elle disait, en mettant ses deux doigts comme ça, « Tout ça rentre par là et ressort par l'autre côté. Et il ne reste rien entre les deux bouts, c'est son œuvre. » C'est beau, c'est très beau. Le 26 octobre 85, elle est reçue à l'ONU. Je le disais à l'instant. Le matin, qu'est-ce qu'elle fait ? La messe, l'oraison bien entendu, le lavage quotidien du sari, on mettait séché, puis après... en fait, il y en avait un qui était porté, un qui était en réserve et un qui était au lavage. Donc, chaque sœur a 3 saris. Elle fait ça, et puis, le nettoyage des toilettes et du sol. C'est ce qu'elle se réservait. Elle voulait faire nettoyer le sol, nettoyer les toilettes. Elle disait, dans ce domaine-là, je suis experte, probablement la meilleure spécialiste au monde en nettoyage des toilettes. Ben oui, voilà. Une sainte, c'est ça. Une sainte, c'est ça, il n'y a aucun doute. Alors, que dire en conclusion ? Saint Vincent de Paul, lui, envisageait, vous voyez, l'oraison comme étant à même de donner de bonnes résolutions. Pour lui, il ne se faisait pas d'illusions sur ce que c'est qu'une oraison où, disait-il, il y en a qui se perdent en belles considérations, qui s'entretiennent en des pensées extraordinaires. Ce n'est pas ça l'oraison. Vous méditez de quoi satisfaire à votre superbe. Vous employez ce saint temps à rechercher votre satisfaction et à vous complaire dans cette belle estime de vos pensées. Vous sacrifiez à cette idole de vanité. Temps perdu, par conséquent, pour les résolutions et donc pour l'oraison. Même inconséquence dans ces prédicateurs qui, au lieu de rechercher le salut des âmes, s'arrêtent à de belles conceptions. Alors ça, à l'époque Saint-Vincent de Paul, on savait faire. Et les belles phrases. En fait, on voulait imiter des gens qui avaient des belles phrases, mais qui étaient profonds, comme Bossuet. Bossuet, c'est différent. Ce qu'il dit, c'est à la fois beau et profond. Et là, on s'était embarqué dans une forme de prédication qu'il critiquait à chaque fois de son époque, qui était la belle phrase seulement. Alors, ça prenait les proportions. On en a beaucoup d'exemples qui nous sont restés, mais je ne peux pas vous citer. Eux aussi, dit-il, se détournent du but de la prédication. Ils piétinent sur place ou même reculent. Donc, vous voyez, il était très sévère pour les gens qui perdaient leur temps. Mère Teresa va avoir ces mêmes réactions. Pour elle, l'oraison, c'est-à-dire de se fixer sur Dieu, la porte vers les pauvres nécessairement. Alors pour conclure, je dirais que Saint Vincent de Paul, comme Mère Teresa, ont bien été des cœurs donnés à Dieu par la médiation des pauvres qu'ils servaient. Mais aussi, vous l'avez bien compris, c'est parce qu'ils étaient d'abord donnés à Dieu qu'ils ont pu réaliser tout ce que Dieu leur confiait. Alors je vais vous donner une citation maintenant, d'un ecclésiastique, d'un jésuite français, Henri Brémond, qui a écrit l'histoire littéraire du sentiment religieux. C'est un contemporain du siècle dernier, il est mort en 1933. Mais ses écrits sont extraordinaires. Et justement, Jean-Paul II a cité Henri Brémond dans un discours, ce n'était pas un sermon, un discours qu'il a fait aux lazaristes qui étaient sur la place Saint-Pierre, et c'était assez nombreux, à l'occasion du 250e anniversaire de la canonisation, c'est-à-dire en 1987, juin 87. Voici la citation de Brémond. « Ce n'est pas l'amour pour les hommes qui l'a conduit à la sainteté, mais plutôt la sainteté qui l'a rendu vraiment et efficacement charitable. Ce ne sont pas les pauvres qui l'ont donné à Dieu, mais c'est Dieu qui l'a donné aux pauvres. Celui qui le voit plus philanthrope que mystique, qui ne le voit pas avant tout comme un mystique, se représente un Saint Vincent de Paul qui n'a jamais existé. » Et lorsque le pape François a canonisé en 2016 Sainte Thérésa, voici ce qu'il nous dit. « Nous sommes donc appelés à traduire dans le concret ce que nous invoquons dans la prière et professons dans la foi. Il n'y a pas d'alternative à la charité. Ceux qui se mettent au service de leurs frères, même sans le savoir, sont ceux qui aiment Dieu. La vie chrétienne, cependant, n'est pas une simple aide qui est fournie dans le temps du besoin. S'il en était ainsi, ce serait certes un beau sentiment de solidarité humaine qui suscite un bénéfice immédiat, mais qui serait stérile parce que sans racine. L'engagement que le Seigneur demande, au contraire, est l'engagement d'une vocation à la charité par laquelle tout disciple du Christ met sa vie à son service pour grandir chaque jour dans l'amour. »